La chambre aux échos. On va partir de la date de naissance de Richard Powers, 1957. Donc c'est la génération après Philip Roth, qui était de 33. Une bonne génération d'écart. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que Powers est aussi un auteur du 21e siècle, qu'il est confronté aux problématiques continues aujourd'hui, qu'amène le 21e siècle. Et dans son rapport aux sciences, par exemple, ça explique plein de choses. C'est quelqu'un qui est extrêmement connecté à la pointe des sciences dures contemporaines, Richard Powers. Ross, c'est un classique, c'est un humaniste. Bon, prenons l'exemple du flux de conscience, chez l'un et chez l'autre, pour le faire comprendre autrement. On a travaillé le flux de conscience chez Ross la dernière fois. Donc les outils de Ross, ça rapport au flux de conscience, c'est les techniques narratives de Virginia Woolf, de James Joyce, le style indirect libre, le fait d'utiliser le pronom de la troisième personne, mais avec les verbes présents. Bon, ce qu'on a étudié la dernière fois, et c'est très influencé au niveau théorique par la psychanalyse. Chez Powers, le flux de conscience, on passe à l'univers neuronal. On a l'impression de voir les neurones s'activer. Dans les moments de flux de conscience les plus expérimentaux chez Powers, on sent que c'est quelqu'un qui s'est collé aux théories récentes de la conscience. Pour le dire de façon synthétique, on passe de la psychanalyse aux sciences des neurones. Dans son travail technique sur comment on écrit ce qui se passe dans un crâne. Et il est intéressant ce passage d'une génération à l'autre. C'est un des intérêts pour moi de proposer la lecture de ces deux œuvres. On verra que chez Minard, ça se redistribue d'une façon encore différente. Elle cache tous ses effets, quoi. Derrière une langue apparemment très classique. Donc Powers, un des très grands d'aujourd'hui, hein, c'est une stature équivalente à celle de Ross, toute génération gardée. C'est un des nouveaux Ross, si vous voulez, Richard Powers. Et le bouquin qu'on va commencer à lire ensemble aujourd'hui, La Chambre aux échos, a eu tout simplement le National Book Award quand il est sorti en 2006, donc un des gros prix. Il n'a pas encore eu le Pulitzer, Powers, mais ça ne saurait tarder. Il a déjà été sélectionné, mais il n'a pas encore été retenu comme le lauréat. Mais c'est vous dire que c'est un des 10 auteurs américains aujourd'hui les plus reconnus et aussi les plus productifs, les plus intéressants. Bon, il y a des coïncidences troublantes, je l'évoquais tout à l'heure, entre La Tâche et La Chambre aux échos. D'abord, La Tâche finissait sur un accident de voiture. Là, c'est là que tout commence, dans La Chambre aux échos. Mais il faudrait plus généralement réfléchir à la place de l'accident de voiture dans la culture américaine, qui est une culture de la bagnole. La norme aux États-Unis, c'est la bagnole, et tout peut commencer en termes de romanesque et de péripétie par un accident de voiture. Donc, puisque ce qui vient rompre la norme la plus ronronnante, c'est quand la voiture marche plus, par exemple, quand elle se crash. Autre coïncidence, quand même étrange, il y a un Mark dans La Chambre aux échos, qui est l'un des personnages principaux, Mark Schluter. Il y avait déjà un Mark dans La Tâche, qui n'était pas un personnage principal, mais qui est là. Marc, c'est un apôtre, c'est un des évangélistes. C'est peut-être pour Powers l'évangile de quelque chose, La Chambre aux échos. Je crois que c'est pas impossible de le lire comme ça. Et il se trouve que ce Marc, surtout, il interroge aussi profondément que Coleman a pu le faire dans La Tâche sur deux grands problèmes américains, l'identité personnelle, qu'est-ce que c'est que le moi, et le destin. Est-ce que nos vies sont écrites à l'avance? Est-ce qu'on les invente? C'est vraiment une tension très forte chez les Américains qui sont des protestants hypertrophiés, donc des gens qui postulent à la fois la liberté de l'individu et le fait qu'ils sont élus à l'avance, donc choisis par Dieu. Ce qui veut dire que très souvent pour eux, réussir dans la vie, c'est confirmer son élection. J'ai été élu, mais je pourrais rater la confirmation de mon élection en n'ayant pas une vie réussie. La réussite financière pour un Américain moyen, c'est la preuve qu'il a bien été élu. Qui fait bien partie de ces élus que les protestants s'imaginent être. Bon, et autre coïncidence, alors, mais vraiment que je n'avais absolument pas prévu, hein. Page 297, la phrase se termine sur l'élan vital. L'élan vital, le truc que je dis tout le temps. Généralement, les dernières choses que je dis à propos d'un bouquin ici, c'est « Ah là là, c'est plein d'élan vital ». Ben là, j'ai pas besoin de le dire, c'est écrit. C'était déjà le cas la dernière fois dans Philip Roth. L'élan vital, c'est quand même deux mots combinés, ça fait quand même pas mal de hasard en jeu. Moi, je me demande s'il n'y a pas un destin qui veille sur cet atelier, en fait. Bon, grosse différence avec La Tâche, avant qu'on rentre dans le détail, c'est que c'est quand même une toute autre Amérique qui nous est donnée à découvrir, à visiter. La Tâche, on était un peu à la campagne, mais on était quand même à moins de 2 heures de New York. Là, on est loin. C'est les grandes plaines. dite inculte en termes culturels pour le coup, alors que c'est le grenier à blé en termes agriculturels pour le coup. Voilà, on n'est pas sur les côtes, on n'est pas du tout dans l'Amérique européanisée de New York, de San Francisco, de Los Angeles, on est ailleurs. Et il y a clairement chez Powers l'idée de nous dire, vous allez voir, chez les ploucs, ils s'en passent de belles. Chez les ploucs, en fait, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe dès qu'il y a une toute petite déviance du type accident de voiture. C'est rien un accident de voiture, c'est quoi? C'est rien, ça arrive comme ça. Il suffit d'un accident de voiture pour qu'un plouc du Nebraska devienne une espèce de poète surréaliste, une espèce de mythomane génial et un stylisticien hors norme. C'est du roman poétique. Et c'est censé être la pensée de Marc. Marc accidenté, Marc qui sort du coma, parle comme un poète. Pense comme un poète. Pense comme un poète. Donc c'est une manière de nous dire aussi, la poésie n'est pas un truc de gens qui ont lu beaucoup, qui se sont sortis de la langue ordinaire, tout ça. La poésie, c'est un fonctionnement mental à la portée de tous, à partir du moment où vous travaillez sur une différence. Bon, lui, il lui arrive un truc violent qui détruit en partie son cerveau, qui dérègle son cerveau pendant un temps, et qui lui fait accéder à cette langue modifiée, mais pourtant tellement expressive et tellement... Moi, je ne la trouve pas difficile à lire, cette langue. Je trouve qu'elle nous parle, au contraire, de façon très élémentaire, très forte. Ça, c'est, je veux dire, c'est un engagement politique fort de la part d'un auteur de dire « Moi, je parle depuis chez les ploucs, et vous allez voir, en fait, il se passe des sacrés trucs. » C'est pas rien pour un auteur américain. Alors, donc on va lire « La chambre aux échos » en deux temps, aujourd'hui et puis la prochaine fois. On va travailler sur la question du roman dans les deux cas, mais en l'abordant par deux axes un peu différents. La prochaine fois, je voudrais qu'on aborde La chambre aux échos comme un roman vert. Alors, par rapport au roman noir, qui est un genre bien repéré, voilà, qui a à voir avec le policier, qui a à voir avec une critique sociale, politique. Et il y a ce nouveau genre, c'est pas une expression que j'invente, hein, roman vert, qui émerge petit à petit dans le monde dans lequel on est, c'est normal, qui est un roman qui prend à bras-le-corps non plus des questions seulement sociales-politiques, seulement entre guillemets, mais des questions écologiques. C'est un grand roman écologique, La Chambre aux échos. Non pas au sens où il défendrait une écologie particulière, c'est pas un programme, mais il pose des questions écologiques. Voilà. Et il utilise des problèmes écologiques pour construire une intrigue. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse au contraire à l'appartenance de La Chambre aux échos à un genre très ancien, pas un truc plutôt nouveau comme le roman vert, mais au contraire très ancien, au sens où je voudrais qu'on envisage La Chambre aux échos comme un roman psychologique. Alors j'ai mis un peu de temps à me formuler moi-même cette étiquette-là, un peu réductrice d'une certaine façon, surtout parce que pour moi, Powers, j'ai commencé à le lire parce qu'il était présenté dans les revues, sur les sites, dans les interviews, comme un type qui amène du nouveau. C'est un des rares romanciers aujourd'hui à empoigner des questions scientifiques de pointe et à les introduire dans ses intrigues. C'est vraiment quelqu'un qui amène avec lui un savoir nouveau et qui n'est pas associé à la littérature, traditionnellement. Donc celui-là, c'est un roman neurologique, il a écrit des romans qui sont très imprégnés d'informatique, il a écrit des romans qui sont très imprégnés d'analyse économique, et à chaque fois, ça marche comme roman. Donc la neurologie, c'est un truc récent, il s'est vraiment documenté sur des savoirs qu'on n'avait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, et il est souvent présenté comme ça, quoi, comme un romancier du nouveau, Richard Powers. Un romancier d'un savoir nouveau. Mais il se trouve que poser de façon centrale la question de la pensée dans un roman, et donner une place centrale à l'expression de la pensée dans un roman, c'est une vieille histoire. Ça remonte au moins à ce qu'on appelle les premiers romans psychologiques, dont le parangon, le modèle par excellence, est très doux à évoquer, puisque c'est la princesse de Clèves, cette chère princesse de Clèves qui ennuyait tellement Nicolas Sarkozy. Du coup, elle est devenue très célèbre, il y a eu des t-shirts, « Je lis la princesse de Clèves »,« J'aime la princesse de Clèves », tout ça, c'était... Pourquoi est-ce qu'on a appelé les romans de la mouvance de la princesse de Clèves et tout ce qui a suivi ensuite romans psychologiques? C'était pour les, entre autres, pour les dissocier du roman, disons, de tradition épique, où tout se passe à l'extérieur, où ce qui compte, c'est les événements dans le monde. Les grandes batailles, les voyages, les pérégrinations. Le roman psychologique construit une intrigue qui place au centre la vie de la conscience, donc la vie intérieure, plutôt que les grands gestes à l'extérieur. Alors, ça désigne au moins deux façons un peu différentes mais complémentaires d'écrire l'idée de roman psychologique. Ça désigne une approche analytique de la vie des personnages. La princesse de Clèves souffrait de honte, elle vivait un dilemme intérieur. Donc on met des mots analytiques sur la vie sentimentale, psychologique, sur la vie des sentiments, des pensées, des sensations. Donc sur cet aspect-là du roman psychologique, c'est le narrateur qui se fait entendre, qui commente la vie intérieure d'un personnage, c'est un commentaire. Mais il y a une autre grande ressource du roman psychologique qui est tout simplement d'essayer de faire entendre cette vie intérieure, non pas de la commenter, mais de la traduire. De traduire avec des phrases écrites, avec une langue normalement très, très construite, un flux de pensée, un flux de conscience, qui ne repose pas du tout sur les mêmes modes de construction. On le sait tous, quand on fait un peu d'insomnie, par exemple, la conscience ne fonctionne pas par sujet-verbe-complément. Elle fonctionne par association, elle fonctionne par fusion, par fusée. C'est une langue très différente de la langue grammaticalement normale. Et le roman psychologique repose sur ces deux outils. Donc, dans le premier cas, c'est le narrateur qui a le pouvoir, c'est lui qui commente la vie intérieure du personnage. Dans le deuxième cas, c'est plutôt le narrateur qui se met en retrait et qui, comme dans le cas de Philip Roth, donne la parole, fait entendre la vie intérieure du personnage. Bon, parler de roman psychologique pour un texte qui repose beaucoup sur la neurologie, ça pose aussi quelques problèmes, parce que la neurologie et la psychologie sont des branches qui souvent se comprennent pas, s'opposent. Je vais y revenir petit à petit, mais ça c'est un débat théorique que je voudrais pas placer au début de ma lecture. Alors Powers va dans cette tradition du roman psychologique, je dirais qu'il va encore plus loin que ce qu'ont fait jusqu'à présent les grands auteurs, au sens où dans La Chambre aux Échos, la vie intérieure, c'est pas seulement une manière d'aborder les personnages, qui différencierait le roman psychologique du roman épique, où pour aborder les personnages, on utiliserait leurs grandes actions. Ici, donc, c'est pas seulement une façon particulière d'aborder un personnage, l'écriture psychologique, c'est que le rôle principal dans la fiction est donné à la vie intérieure. Le personnage principal, c'est la vie intérieure. C'est pas juste qu'on nous présente des personnages par le biais de la vie intérieure, c'est que c'est la vie intérieure qui est au centre. Ou pour le dire de façon plus ramassée, le héros, c'est le cerveau. Et en fait, le héros, c'est le cerveau, c'est ce que semble nous dire Richard Powers dès le titre du bouquin, qui est assez mystérieux de prime abord, La Chambre aux Échos. De quoi s'agit-il? Bon, on va en faire deux lectures de ce titre, la prochaine fois je vous en proposerai une autre, mais si on va à page 403, on a une réponse assez claire à cette question, que désigne ce titre? C'est Weber en voyage en Australie, qui se fait une sorte de chemin de croix très personnel. Donc Weber, le personnage de neurologue dont on va beaucoup parler aujourd'hui, disons neurologue, pour aller vite, il est en Australie, il a fait de l'insomnie, pour le coup, il prend une douche, et voilà ce qui se passe. Je commence tout en haut de la page 403. Weber arrêta la douche et ferma les yeux. Pendant quelques secondes, des afflux chauds continuèrent de lui couler dans le dos. Même intact, le corps était un fantôme, un échafaudage assemblé par les neurones, prêt à l'emploi. Le corps constituait notre seule maison, mais encore ne s'agissait-il que d'une carte postale plutôt que d'un lieu véritable. Nous n'habitions pas à l'intérieur de nos muscles, de nos articulations et de nos tendons. Nous habitions dans l'idée que nous nous en faisions, dans l'image et le souvenir que nous en gardions. Pas de sensation directe, mais seulement des rumeurs aux échos incertains. Les acouphènes de Weber, simples cartes auditives remaniées pour produire des sons fantômes dans une oreille saine. Il finirait comme l'un de ces patients victimes d'une attaque, affublé d'un bras gauche surnuméraire, de trois coups et d'un candélabre plein de doigts, le tout dissimulé sous la couverture d'un lit d'hôpital et perçu distinctement. Bon, voilà, c'est l'idée d'une illusion, avec cette douche qui s'arrête mais la chaleur qui continue à couler, comme si la douche ne s'était pas arrêtée. C'est l'idée que le cerveau ne perçoit pas directement le monde, que le cerveau ne reçoit du monde que des échos. Donc cette chambre aux échos, c'est le cerveau, au sens où voilà, pas de sensation directe, mais seulement des rumeurs aux échos incertains. Ce qui nous arrive du monde, ce qui arrive du monde à notre cerveau, c'est des échos, c'est pas le monde directement. Ça, c'est le postulat, disons, neurologique du personnage Weber, et peut-être par derrière de Powers. Donc, le cerveau n'est qu'une espèce de caisse de résonance de ce qui lui arrive comme rumeur du monde. Et c'est ça le titre du bouquin. C'est pas les mésaventures de Marc ou Marc est le syndrome de Capgras, le syndrome dont il semble atteint après l'accident dont il est victime. Dire « ce roman s'appelle La chambre aux échos », c'est donc dire « le héros, c'est le cerveau ». Ce dont je vais vous parler, c'est du cerveau. Alors, pourquoi il n'a pas écrit un traité, un autre traité, si c'est pour nous parler du cerveau? Et de façon plus technique pour nous, donc plus tournée vers nos questions d'outils d'écriture, comment est-ce qu'on fait pour construire un roman avec ce genre de héros? Une fois que je vous ai dit ça, c'est bien gentil, mais Kubrick, par exemple, 2001, ou pire encore, peut-être Shining, c'est un film cerveau. L'hôtel dans lequel tout se passe, c'est le cerveau. C'est le cerveau du personnage principal qui hallucine, quoi, qui a des chambres dans lesquelles il y a une série d'hallucinations déconnectées. C'est Kubrick lui-même qui donne ce genre de piste pour comprendre son film. Bon, mais c'est un film pas facile, Shining. Prétendre faire une histoire avec cet organe fascinant, mais tellement complexe qu'est le cerveau, c'est une gageure. Donc comment il s'y prend, Powers? C'est ça que je voudrais qu'on commence par analyser. Comment est-ce qu'il fait pour faire acte de littérature à partir des traités de neurologie qu'il a compulsés? Comment ça devient un roman? Après, on verra pourquoi ça devient un roman. Pourquoi il pense que c'est encore mieux de faire un roman que de faire un traité pour parler du cerveau. Mais commençons par nous questionner sur le comment. Comment est-ce qu'il fait pour faire acte de roman avec ce personnage principal, cette chambre aux échos, ce cerveau? Alors, il y a tout un premier pan qu'il faut qu'on analyse ensemble, qui est le choix narratif de partir d'un cas, ce qu'on appelle un cas en science. Ça, c'est un point commun entre les sciences et la littérature. Un cas, comme chez les psychanalystes ou chez n'importe quel scientifique par ailleurs, en sciences dures, c'est toujours une personne, et donc facilement un personnage. Il utilise une très très vieille ruse de romancier, en fait, Powers, pour nous parler de ce contenu très nouveau qu'est l'énigme neurologique. Comment il fait? Il choisit un cas, donc une personne sur laquelle on va se concentrer, et il nous présente sa famille. C'est une très vieille ficelle du roman. Comment on fait pour faire un roman médical? Ben, il faut un héros malade. Il choisit un type qui est malade, donc un cas. C'est ça un cas, en fait. Et c'est toujours un cas particulier. Une personne qui va à la fois nous apprendre des choses un peu générales sur un problème de santé, mais qui en même temps présente des spécificités, biographie. Donc on va à la fois, à travers ce cas, pouvoir apprendre des choses sur la neurologie, et en même temps on va s'y attacher, ce qui est le truc fondamental du roman. Il faut qu'il y ait de l'empathie pour des personnages. Donc c'est Marc Schluter, qui va à la fois nous servir en gros de cobaye et de miroir. Le cobaye pour apprendre des choses, et le miroir pour s'attacher à lui, pour avoir envie de connaître la suite. Ça y est, le cerveau a un corps, si vous voulez, avec Marc Schluter. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Marc Schluter? Je récapitule. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Marc Schluter? Ben, jusqu'à présent, c'est un gentil technicien à l'abattoir de Kearney, qui est une toute petite ville des États-Unis. C'est plus petit que Carcassonne, par exemple. Ça fait pas 35 000 habitants, Kearney. Carcassonne, il y a un peu plus de 40 000. Petite ville des grandes plaines. Donc, c'est une petite tâche sur un truc immense. Et il répare des machines à l'abattoir, parce qu'il est très doué avec les machines. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de quoi faire un roman, mais l'hiver après le 11 septembre 2001, c'est une période qui va à peu près autant compter dans le roman que Bill Clinton, l'histoire du Zipgate dans la tâche, l'hiver après le 11 septembre, à l'âge de 27 ans, c'était 72 chez Coleman, il a un grave accident de camion. Bon, il met camion, à mon avis, c'est un van. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec cet accident. Ça va être intéressant aussi. Et il tombe dans le coma. Sa sœur Karine, qui est sa sœur aînée, accourt, elle l'assiste, il se réveille miraculeusement, il sort du coma. Mais il refuse de croire que Karine est sa vraie sœur. Ça, c'est l'idée géniale de Powers par rapport au roman familial, par rapport à cette tradition du roman familial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le symptôme de Capgras, qui consiste à posséder toutes ses facultés de reconnaissance physique d'une personne, mais il y a un débranchement entre cette capacité de reconnaissance qui est purement factuelle et l'affect, la vie affective. Donc il reconnaît sa sœur, mais il sent aucun attachement pour elle. Et donc il en tire une conclusion qui est fausse mais qui est logique. Au lieu de se dire il y a un débranchement entre mes affects et ma capacité de reconnaissance, il dit c'est pas ma vraie sœur. C'est une espèce de faux syllogisme. Elle ressemble à ma sœur, mais je ne l'aime pas, donc c'est pas ma sœur. Alors que la déduction devrait être, donc, mon appareil combinant reconnaissance et affect, et les brancher. Il y a une phrase géniale dans le bouquin, page 307, ça c'est vraiment bien trouvé. Il, donc c'est Marc, il aurait inventé une autre théorie sans se laisser ébranler par quelque chose d'aussi ténu que des preuves. Et ça c'est très fort, ça veut dire que l'affect est plus fort que la logique. Même si on te fait déduire des choses, si ton affect n'est pas convaincu, tu en doutes. Il y a une expérience comme ça très marrante qui a été faite par un grand cuisinier qui fait préparer des nuggets à des maternelles pour essayer de leur apprendre ce que c'est que la malbouffe et tout ça. Donc il leur montre que les nuggets c'est fait avec le pire du poulet, en plus le pire des poulets au départ, bref. Donc il fait des bons nuggets au départ avec du blanc de poulet fermier, tout ça, les gamins se régalent. Il leur fait des nuggets après avec les cartilages, enfin toutes les merdes qu'il y a dans les nuggets, machin. Et il leur dit, alors vous préférez lesquels? Et les gamins, alors qu'ils disaient, oh c'est vraiment génial avec le blanc de poulet et tout ça, les gamins disent, non mais nous ce qu'on préfère c'est les cartilages. Voilà, c'est pas logique mais c'est affectif. Voilà, comment s'y prend Powers? Il choisit un type qui tombe malade, et qui bouleverse le roman familial. D'un coup, il y a un court-circuit dans le courant familial. Et ce court-circuit, il va rebrasser tout le roman familial du frère et de la sœur. Les parents, les amis, les amours. Les trucs bateaux du roman, quoi. Ils avaient ça partout, dans les bons et dans les mauvais romans. Sauf que, il y a ce truc génial au milieu, ce premier truc génial, qui est Cap Gras, qui est « Je reconnais pas ma sœur, c'est ma fausse sœur, c'est pas ma vraie sœur. » Et donc, dans cette faille, il va pouvoir nous fourguer tout son savoir neurologique, quoi. Tout ce truc qui l'intéresse et qui le fait vibrer, pas. Il va pouvoir nous en faire des pages, parce que d'un coup, ça nous intéresse. Parce qu'on se dit, oh, si je reconnaissais pas ma sœur, ce serait horrible. Bon, enfin, ce serait passionnant. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Alors, notez la proximité graphique des prénoms entre Marc et Karine. Ça, c'est des trucs de romancier hyper bien trouvés. Il y a trois lettres en commun entre Marc et Karine. Et si vous bidouillez le IN de la fin de Karine, vous pouvez refaire un genre de M qui pourrait devenir le M de Marc. C'est sûr qu'il y a pensé, Powers. J'en suis certain. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est comme deux chiots dans la même portée, quoi. Ils sont complètement fusionnels. Parce qu'en plus, ils ont des parents atroces et qu'il a fallu qu'ils s'en sortent tous les deux. Et là, paf! Le roman disjoint leur vie. Moi, ça ne me fait pas regretter de ne pas avoir grandi dans le Nebraska. Donc, jusqu'à présent, on est un peu dans le même genre de mélo que dans La Tâche. Vous vous souvenez, on avait dit au départ, La Tâche, il y a un côté voici, quoi. L'horrible accident. Mais ça marche, bien sûr, ça marche, ça nous touche. On se dit, ah, mais alors, ah, c'est horrible. On a envie de savoir la suite. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il se passe autre chose. Heureusement, c'est pas juste un page-turner. Ça va nous faire travailler à plein de niveaux différents, ce texte. Notamment grâce à deux personnages cruciaux qui interviennent dans ce qui était jusqu'à présent juste un roman familial, disjoint par l'accident. Il y a de nouveau dans cette sphère très ronronnante. Donc Barbara, l'aide-soignante qui s'occupe de Marc, qui est beaucoup trop compétente et disponible pour ne pas masquer de lourds secrets, qui est beaucoup trop cultivée pour être une aide-soignante du Nebraska. Et surtout, l'autre héros, quoi. Il y a deux héros, en fait, dans ce bouquin. Enfin, au moins deux. Gérald Weber, donc disons neurologue, qui est une sorte d'Hubert Reeves de la neurologie. À la fois dans le profil, quoi, le type super célèbre, et puis la dégaine. Et ces deux-là, ils vont transformer, chacun à leur façon, ce roman familial en enquête. Ils vont vous faire passer de la fresque familiale à l'enquête. À la fin, il y aura une brève histoire d'amour aussi, entre eux. C'est pas ce qui nous intéresse le plus pour l'instant. Comment ils font pour basculer dans l'enquête? Alors d'une façon qui est un peu différente de ce qui se passait dans La Tâche, puisque vous vous souvenez qu'on avait déjà dit que La Tâche empruntait au polar. Barbara et Weber vont poser chacun à leur façon la question qui était celle de Lisa dans le roman de Ross, souvenons-nous, donc la fille de Coleman. Comment est-ce que tout ça a pu arriver? C'était la question de Lisa, qui lançait donc le travail de reconstitution, donc d'enquête. Barbara et Weber font ça chacun à leur façon. Sur deux plans différents. Barbara, c'est apparemment celle qui accompagne la convalescence, qui passe par une reconstitution des faits. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident? Il y a eu un accident, après il y a eu un mot cryptique, bizarre, qui a été déposé dans la chambre. Qui c'est qui l'a écrit? Alors que personne ne pouvait rentrer. C'est un truc presque à la Agatha Christie. Le mystère de la chambre jaune. Bon, et en fait, Barbara, on va découvrir qu'elle ne fait pas qu'accompagner cette enquête. Elle se marie. Non, c'est une des solutions au mystère de l'accident, mais je ne dirai pas comment. Et de toute façon, Barbara, je m'en fous un peu, c'est Weber qui m'intéresse le plus aujourd'hui, évidemment, puisqu'il va situer l'enquête sur un autre plan. C'est un chercheur, un savant, donc c'est quelqu'un qui cherche, c'est-à-dire une forme d'enquêteur, qui est génial, parce que comme dirait Nietzsche, il est par-delà le bien et le mal. Il ne se pose pas la question du coupable, Weber. Il se pose la question de la question. Un scientifique, c'est quelqu'un qui ouvre une grande question et puis qui apporte des petites réponses, mais les réponses évoluent et ce qui compte, c'est que la question demeure. Weber nous aide à, enfin aide Powers à faire de la chambre aux échos un genre de polar dans le savoir, dans le champ du savoir. C'est une recherche dans le savoir. Je vous disais, c'est un roman sur le cerveau. Comment on fait pour faire un roman sur le cerveau? Il faut un cas, mais il faut aussi un Weber, qui est celui qui va faire l'interface entre récit et savoir. Weber est un personnage, avec sa vie affective, sa vie intérieure, ses problèmes, ses péripéties, et en même temps, il porte avec lui des valises de savoir qui va nous dérouler. Et ça, ça intéresse vraiment, vraiment Powers, de nous délivrer du savoir. C'est-à-dire, ce personnage de vulgarisateur scientifique est endossé par Powers lui-même, en fait. Powers passe par un personnage pour nous vulgariser du savoir. Et moi, j'apprends du savoir en lisant La Chambre aux échos. J'apprends des trucs sur le cerveau que je ne savais pas. Surtout qu'après, on va voir que ces modèles sont assez clairs. Les gens dont il s'est inspiré, c'est des vrais neurologues. Enfin, disons neurologues. Oliver Sacks et un autre Gerald Edelman. Donc il emprunte le prénom. Alors, ça y est, on a transformé une problématique qui a l'air assez cérébrale, pour le coup. Faire un roman cerveau, faire un livre sur le cerveau, en faire un roman, ça y est, on comprend un peu comment il s'y prend, là. Il prend un cas, son roman familial, et puis il introduit des gens qui viennent modifier le roman familial et qui font l'interface entre le savoir et le récit. Bon, ça y est, on a compris la cuisine de base de Powers pour nous faire un bon roman à partir de ce projet fou d'un héros cerveau. Maintenant, il faut qu'on plonge un peu dans ce savoir que Powers veut nous transmettre. Donc ce que je vous propose là, c'est qu'on étudie non plus cette histoire de cas, mais comment la psychologie, le domaine de la psychologie, le vaste domaine de la psychologie, se situe entre science et littérature. Je vais développer quelque chose que j'ai abordé il y a 3 minutes, la question du personnage de chercheur, d'abord. En quoi est-ce qu'un chercheur est un bon personnage de roman? Un chercheur, c'est génial dans un roman. Et je vous dis ça de l'intérieur, puisque dans mon premier roman, c'est un chercheur qui devient un enquêteur. Tu vois bien la rouerie de Richard Powers, les ficelles, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un chercheur? C'est un héros de polar sans victime, sans coupable. Pour le dire autrement, en des termes que j'avais utilisés il y a 4 ans durant un roman sans divertissement, un chercheur, c'est un héros de polar sans proie. Un héros de polar, il fait une chasse. Le polar reprend cette vieille intrigue, l'une des plus vieilles, un des plus vieux scénarios d'histoire qui existe, qui est l'histoire de la chasse, de la prédation. Le polar est une prédation, disons, urbaine et entre hommes. L'une des grandes vertus d'un film comme Princesse Mononoke, par exemple, un des signes du génie de Miyazaki, c'est d'avoir ressaisi ce truc de la chasse, cette intrigue de chasse à l'intérieur de l'histoire. C'est entre autres une histoire de chasse, Princesse Mononoke. Mais le héros de polar, lui, il a une proie, il lui faut une proie identifiée. Et lui, c'est le chasseur légitime, parce qu'il a généralement la loi pour lui. Alors, Powers, je crois qu'il est très très conscient de ce truc par rapport à la chasse, par rapport à la bête. On a vu la dernière fois aussi cette dimension-là de l'intrigue dans la tâche, à travers la figure du bouc émissaire, la figure du coupable à évacuer parce que c'est une bête. Parce qu'il porte en lui quelque chose comme un péché, comme une malédiction. Il y a une évocation de ces bêtes, ouais, de ces grands coupables, de ces grands boucs émissaires qu'il faudrait châtier dans La Chambre aux échos. Surtout au début. On sent que Powers est travaillé par ça. Page 53, il y a une espèce de quiproquo très marrant entre un des potes, il n'y a pas d'autre mot, de Marc et Karine, sa sœur, à l'hôpital. Il s'appelle Duane Kane. Duane Kane, qui s'éloignait en crabe dans le couloir, la rappela. « Tu ne sais pas ce qu'est devenue la bête par hasard ?» C'est une super phrase. Elle le regardait, dérouté, l'œil rond, celle de l'apocalypse ou des rites ancestraux. Là, pour moi, ça peut vraiment être une évocation des premières formes de tragédie, du sacrifice du bouc, les rites ancestraux. Et son camion, quoi ! En fait, c'est le camion, la bête, évidemment. Son camion, quoi ! Il est complètement foutu. On pourrait y jeter un œil, si tu veux. Là, il y a une évocation rapide du diable, la bête de l'apocalypse, et peut-être de cette bête très proche, qui est le bouc de la tragédie. Un peu plus loin, en des termes pas si éloignés, page 57, On est dans la tête de Marc. Il va vraiment pas bien, mais ça commence à aller un tout petit peu mieux. Ses débris émettent et reçoivent encore, mais ne communiquent plus. Des mots goûtent dans sa tête. Moins des mots que des sons. Tête de bouc, tête de bouc. Simple tic-tac, rien de moins que les battements de son cœur. Le son crépite comme de l'huile de moteur qui perle. Tête de bouc, bête à queue, tête à corne, coup de queue, en avant, queue en tête, par les cornes, bête à terre, abattu, fini. Si c'est pas la description du sacrifice du bouc, je sais pas ce que c'est. Dernier exemple, page 70. Tout ça, c'est des petites évocations, hein. Vous voyez, il n'insiste pas, Powers. Il n'est pas en train de nous mettre une citation d'Eschyle ou d'Odyssée au début du roman. Page 70, le premier petit paragraphe en haut de la page 70. « Ici, il y a un lit où il vit, mais un lit plus grand que la ville. Il repose sur cette étendue colossale, baleine affalée dans la rue. Bête échouée, longue de plusieurs quartiers, créature océanique, déboussolée, restituée à la pesanteur accablante, tuée par la gravité. » Bon, là, c'est la baleine victime. Mais un Américain qui écrit « baleine », c'est tout de suite Moby Dick. Et donc, une incarnation de la bête. Moby Dick, si vous voulez, c'est le bouc des mers. C'est le diable dans la mer, Moby Dick. Donc, vous voyez, Powers joue avec ces grands archétypes de proie, de sale bête à évacuer. Et Marc, pour partie, endossera ce rôle de bouc émissaire. Dans ses moments de paranoïa, il dira « Oui, je suis la grande victime !» On a l'impression que c'est Rousseau qui parle. « Oui, tout le monde me veut du mal, je vis dans un film, il m'observe. » Bon, sauf que Weber, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et c'est ça qui est intéressant par rapport au modèle du polar, de l'intrigue de chasse qui est derrière, tout ça. Weber botte en touche systématiquement. Il déconstruit les récits où Marc se présente comme la victime. Il n'y a pas de victime dans le monde de Weber. Donc Weber déplace le schéma de l'enquête de l'éradication de la victime coupable, qui est le grand schéma du polar, à autre chose. Une enquête pour l'enquête. Une enquête sans fin. Il y a un art du dialogue chez Weber, et derrière chez Powers qui le fait parler, pour botter en touche. Dès que Marc dit « Oui, ça c'est bien la preuve que je suis la victime !» Weber a toujours des formules pour désamorcer et dire « Ah bon, vous croyez ?» Marc lui dit « Oui, vous vous rendez compte, ma sœur, c'est une fausse sœur !» Et Weber lui dit « Je vais me renseigner. » Il a plein de phrases comme ça à Weber, pour sortir d'un schéma d'enquête qui conduirait à l'éradication d'un coupable. Et pour que l'enquête se prolonge, toujours elle-même, qu'elle n'aboutisse pas en fait. Le but du jeu, c'est pas d'aboutir dans l'enquête de Weber, c'est d'accumuler du savoir au passage. Mais cette accumulation est sans fin. C'est vraiment la démarche scientifique, quoi. Il n'y a pas de fin à la science. Toujours un peu plus de savoir. Mais il n'y a jamais de fin. Il n'est pas là pour trancher, ni au propre, ni au figuré. Trancher une vérité ou trancher un coup. C'est le grand intérêt du personnage d'enquêteur, c'est que, comme dans un roi sans divertissement, hein, l'enquête finit par porter sur lui-même. Surtout quand vous êtes neurologue et que vous travaillez sur la pensée, c'est-à-dire que vous pensez à propos de la pensée. Le boulot du neurologue, c'est ça. C'est de penser à propos de la pensée. Donc, d'interroger lui-même sa pensée, bien sûr. Et c'est ça qui donne une épaisseur supplémentaire au texte, c'est que cette enquête sur la conscience, c'est aussi une enquête par la conscience de Weber, qui se retourne sur la conscience de Weber. Alors, il y a plusieurs choses, et pour au moins deux raisons. D'abord, il y a de toute façon chez Weber, dès le début, cette tendance à l'auto-analyse, par des formations professionnelles. Il y a plein de moments où il est en train d'analyser comment il pense, notamment quand il a mal dormi, dans tous les moments de dysfonctionnement, l'auto-analyse augmente. Mais en plus, et c'est là qu'il y a vraiment un travail de romancier, le personnage de Weber évolue. Il est pris à un moment charnière. Il est pris au fait de la gloire. On le reconnaît dans l'avion, il est obligé de dire « Non, c'est pas moi, moi je m'occupe de l'assèchement des zones humides. » C'est vraiment pas mal. On le prend au fait de la gloire et il doute. C'est Hubert Reeves qui se met à douter. Alors, c'est certainement une manière d'exorciser cette saloperie de doute qui taraude la vie d'un écrivain. À succès, en plus, comme Powers. Mais ça, je vais le développer plus loin parce que ça mérite de s'y arrêter un petit moment. Comment est-ce que Weber intervient dans l'intrigue, au niveau du tuilage romanesque? C'est Karine qui lui fait appel. Karine qui est désespérée par l'évolution de son frère qui veut toujours pas croire que c'est elle la sœur. Elle se fait offrir des bouquins par Daniel, dont on parlera beaucoup la prochaine fois, son amoureux écolo, des bouquins de Weber. Et du coup, elle trouve le type génial, il lui donne de l'espoir, elle lui écrit, il répond. Est-ce qu'il pense pas du tout à guérir? Je suis pas sûr. Il donne des conseils. Il donne des conseils. Il a une présence rassurante et tout ça. Mais il y a aussi que Karine, elle est investie d'un tel espoir en le lisant qu'elle est forcément déçue. C'est pas juste de son fait. Mais de fait, l'une des choses qui fait douter Weber, c'est-à-dire, mon entreprise est-elle légitime? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des histoires personnelles pour mon compte d'auteur? Pour ma gloire, qui est une vraie question éthique. Bon, et puis il se trouve que le bouquin qui sort au moment où on le rencontre marche moins bien, qu'il y a des critiques très méchantes, et qu'on assiste effectivement au doute un peu métaphysique dans la vie d'un auteur, qui rejoint certainement des interrogations qui sont celles de Powers. Mais il y a autre chose qui fait que la conscience de Weber est mise en abîme dans le roman, c'est qu'on sent les germes possibles d'un début de maladie. Il se dit, est-ce que je ne suis pas en train de choper Alzheimer? Et là encore, c'est très réussi l'émergence de ce doute. C'est une scène où sa fille l'appelle et il n'arrive plus à retrouver le nom de la copine de sa fille, Shona. Quand elle lui dit Shona, il dit, mais c'est pas étonnant, je ne retiens pas ce nom. Je ne sais pas, Shona, quelle résonance ça a pour lui. Sauf que ça, cette conversation téléphonique, c'est le jour de son anniversaire. Donc, à un moment de mise en relief du temps qui passe. Je suis en train de vieillir, je suis en train de mourir. Donc c'est aussi comme la tâche un roman sur le vieillissement. Et c'est ce problème pathologique, disons, qui semble surgir, fait aussi un point commun fort entre Weber, le personnage inventé par Powers, et l'un de ses deux modèles principaux, l'autre Gérald, celui qui a vraiment existé dans la vraie vie, Gérald Edelman, qui est un immense connaisseur du système nerveux central, qui est mort de la maladie de Parkinson. Il y a vraiment un profil biographique très proche. Même si Gérald Edelman était plutôt la génération de Philip Roth, en fait, pour le coup. Gérald Edelman a pas seulement donné son prénom au Gérald Weber de Powers, il a aussi donné une partie de sa théorie. Si on connaît un petit peu les écrits d'Edelman, on en retrouve la substantifique moelle dans les propos de Weber. Sauf que Weber n'est pas un théoricien, et il se présente bien comme quelqu'un qui étudie modestement des cas. Et ça, ça ressemble à un autre modèle de neurologue qui a beaucoup nourri Richard Powers, et qui est Oliver Sacks. S-A-C-K-S, Oliver Sacks. Qui est lui toujours vivant, tellement vivant même qu'il était interviewé par Laura Adler lundi dernier, à 22h15, dans Avoie Nue. Donc c'était très mystérieux, j'étais en train de boucler mon topo, je venais de me défouler, tout ça, j'étais très très bien, et je me disais, ah, ça fait du bien d'arrêter de bosser, et paf, je tombe sur une interview d'Oliver Sacks, qui était évidemment passionnante. C'est le profil d'Oliver Sacks, qui se présente d'ailleurs par rapport à Gérald Edelman, dont on parle dans cette interview avec Laura Adler, comme le modeste collecteur de matière qu'il offrait au génial Gérald Edelman, c'est comme ça qu'il se présente. Il fait le modeste. Oui, Gérald, c'était celui qui faisait des théories avec mes exemples. Alors, il y a ça qui est en commun entre Oliver Sacks et Gérald Weber, c'est la méthode de l'écoute, et c'est un certain nombre de maladresses, de son côté inadapté pour la vie quotidienne. Ça, ça vient entre autres d'Oliver Sacks. Oliver Sacks, dans la vraie vie, c'est un type, par exemple, qui n'a aucun sens de l'orientation, qui est incapable de reconnaître une personne avec laquelle il vit tous les jours, à partir du moment où elle est dans un autre contexte. Donc il dit, par exemple, j'allais chercher à la gare mon assistante, et à la gare, je la reconnais pas. Parce que lui, il catalogue pas comme ça, il catalogue fonction, lieu, tout ça. Donc, haute fonction, haute lieu, la personne est invisible. Donc elle arrive toujours vers lui, c'est moi. On imagine la scène, c'est assez drôle. Bon, c'est Powers lui-même hein, qui donne ses sources, qui dit, voilà, je me suis inspiré de ces deux grands neurologues pour construire mon personnage de Gérald. Gérald Weber se présente pas comme un théoricien. Quand même, on peut déceler, et c'est important d'en parler maintenant, puisqu'on parle de roman psychologique, une certaine théorie de Weber. On peut récapituler ce en quoi Weber croit, à partir de ce que Powers retient de Sacks et de Edelman. Et moi, je crois comprendre ça comme un matérialisme symbolique. Pas de panique, je vais donner des exemples. Non, c'est des mots un peu massus, mais je crois que ça fonctionne. C'est pas matérialiste au sens de amateur de beaux canapés, comme malheureusement le mot matérialiste résonne principalement aujourd'hui. Matérialiste aujourd'hui, c'est quand vous dites aux gens que vous êtes matérialiste, ils disent « Ah bon, mais t'as pas forcément l'air d'aimer les belles voitures ?» Tout ça, non. Matérialiste, ça veut d'abord dire, au niveau philosophique et scientifique, disons, quelqu'un qui pose qu'il n'y a pas de réalité spirituelle, qu'il n'y a que de la matière. Ce qui ne veut pas dire que c'est croire que l'homme est juste une série de tuyaux, poser cette espèce de vision un peu robotique de l'homme. Il peut y avoir un matérialisme dans la conception de l'homme qui est au contraire très ouvert, très riche et de plus en plus riche. Ce que semble croire Weber, c'est que la conscience est un phénomène purement matériel, un phénomène physiologique. Weber ne parle pas d'âme, il ne postule pas d'esprit, mais pour autant, il ne nie pas, bien au contraire, que l'homme est un animal symbolique. Et pourquoi est-ce que je fais cette distinction? Parce que très souvent, dans la tradition philosophique dont on hérite, même très indirectement par les revues, par exemple, une revue comme Psychologie, c'est une revue qui hésite beaucoup entre matérialisme et spiritualisme. Et il y a des éléments de spirituel dans cette revue très grand public, et puis il y a des articles qui sont purement matérialistes. Il y a une sorte d'hésitation comme pour faire plaisir à tout le monde. Donc on hérite tous de ce truc-là. La vie symbolique de l'homme, elle est souvent perçue comme quelque chose qui relève de la sphère de l'esprit, du spirituel, de l'âme, tout ça. Chez Weber, moi ce que je crois comprendre, c'est que l'activité symbolique, c'est une activité du cerveau, une activité matérielle, mais symbolique. Le cerveau produit les symboles. Mais le fait, par exemple, que Marc s'attache tellement aux marques de pneus sur la route, qu'il aille les chercher comme des signes de ce qui s'est passé pour reconstituer une scène. Le fait qu'il s'attache tellement aux petits mots, enfin je ne dis pas qu'il l'a écrit en fait, le fait qu'il s'attache tellement à ce petit mot qu'il a trouvé dans sa chambre, que sa sœur a trouvé dans sa chambre et qu'elle a fini par lui donner, qu'il plastifie, qu'il aille chercher qui a bien pu écrire ce truc partout dans le canton, tout ça c'est la preuve que l'activité symbolique, le langage, les symboles pas seulement langagiers mais comme les traces de pneus, ou sa maison, la façon dont sa maison semble s'être un tout petit peu déplacée, la boîte aux lettres n'était pas là, c'est bien la preuve que dans un cerveau purement fait de matière, il y a de la production de symboles. Que les symboles, pour Weber, ne sont pas une chose de l'esprit, mais que pourtant ils existent et qu'ils sont cruciaux. Et qu'on se guérit beaucoup par les symboles. Bon, ça c'est pour le côté un peu science dure du roman. Je n'insiste pas davantage parce que enfin, on tombe très vite dans des problèmes de spécialistes. D'autant que ce qui m'intéresse, au moins à égalité, c'est que tout le travail de Weber, du savant Weber, nous est également présenté comme un travail littéraire. C'est les deux choses. Powers met quelqu'un en avant qui semble être comme le manifeste de sa propre pratique, c'est-à-dire je suis un littéraire scientifique, je m'intéresse à tout. Ces choses ont à voir les unes avec les autres. C'est pourquoi certainement le dernier modèle de Weber utilisé par Powers, c'est Richard Powers. Derrière Weber, il y a Oliver Sacks, il y a Edelman et il y a Richard Powers. C'est un peu le Nathan de Philip Ross, Weber. Mais c'est moins clair. Powers est quelqu'un de plus subtil que Ross. Ross, il tranche. Son Nathan, c'est un écrivain. C'est un écrivain de métier, comme on avait vu la dernière fois. Weber, c'est différent. Dès sa première évocation, page 151, c'est l'apparition de Weber autour de la page 148-150. La dernière phrase, « Parmi tous les désordres étranges du cerveau que décrivait ce docteur écrivain, aucun n'était aussi insolite que l'attention portée à autrui. » Docteur écrivain. Dans la version anglaise, c'est writing doctor. Donc, c'est pas doctor writer. Mais, c'est un docteur écrivant, quoi. Et écrivant comme un écrivain. C'est difficile à traduire. Donc, c'est moins net dans la version originale, quand même. Le côté écrivain. Mais il y a une inflexion très nette qui est donnée au personnage. C'est pas juste un type qui balance du savoir. Juste avant, il était question de son style, qui est la grande propriété de l'écrivain. Page 149. Les récits de Weber dévoilaient la malléabilité époustouflante du cerveau et l'ignorance sans fond des neurologues. Dans un style sans apprêt et sur un ton modeste, il préférait appuyer ses études sur des cas particuliers plutôt que sur la doctrine médicale en vigueur. Un style sans apprêt. En anglais, c'est « ordinary style ». Et j'aime bien, enfin, je préfère « ordinary », qui souligne le côté vulgarisateur. C'est-à-dire, je vous parle de trucs compliqués dans une langue ordinaire. Ça met en valeur, en anglais, les qualités de vulgarisateur de Weber, ce que ne transmet pas la traduction par « sans après ». « Sans après », ça veut juste dire qu'il n'y a pas de chichi. Mais ça ne veut pas dire « j'ai mis de côté toute la terminologie spécialisée de la neurologie pour vous parler dans une langue simple ». Donc c'est ça le style de Weber. Et c'est la grande qualité stylistique du vulgarisateur. Bon, et il y a un autre aspect de son écriture qui va être de plus en plus évoqué à mesure que le personnage évolue et à mesure que les critiques sur lui commencent à fondre. C'est non plus le style, mais le talent de conteur. Donc c'est pas la langue, c'est la capacité à faire des récits. Le storyteller, ouais, c'est ça. Retournons en Australie, là où il se fait crucifier. Il y a un type à la fin de son exposé qui fait une remarque absolument perverse. Page 361, au milieu du paragraphe. Quelqu'un lui demanda s'il pensait que l'impulsion narrative pouvait bel et bien avoir précédé le langage. C'est une question superbe. La question n'entretenait aucun rapport avec l'exposé que Weber venait de présenter. Peut-être avait-elle un lien quelconque avec l'accusation du Harper's, qui est le journal qui l'a descendu, selon laquelle il avait manqué sa véritable vocation. Gérald Weber était au plus profond de son être un fabuliste. Donc le mot qui tue pour désigner un scientifique. C'est quand même une immense critique. Je dis fabulateur, et même affabulateur, c'est celui qui raconte n'importe quoi. Mais le fabuliste, c'est celui qui a surtout du plaisir à raconter une histoire, plutôt que de nous transmettre un savoir. Mais ce qui est surtout reproché à Weber, c'est de masquer le manque de fond. Il y a un peu de fond, mais il n'y en a pas beaucoup. Un truc bien enrobé, une histoire bien racontée. Alors, essayons de repenser à Powers Weber. Weber est un scientifique à qui on reproche de raconter trop bien. Et moi, je me demande si à travers ça, Powers n'exorcise pas surtout les critiques qu'on pourrait lui adresser d'être un littéraire qui parle trop de science. Le truc inverse. Critique absurde, s'il en est, vu l'objet de ce roman, puisque la conscience, qui est le grand sujet, c'est à la fois un phénomène dont les neurologues sont des examinateurs privilégiés, et c'est surtout, nous dit Powers, une fabrique à fiction. Donc on a dans la tête un fonctionnement qui est une activité qui peut être observée par la science, décrite, comprise, mais qui est aussi une activité de fiction, une activité qu'on prête à la littérature, traditionnellement. La conscience est un point génial pour nous dire la distinction entre science et littérature est absurde. Regardez un objet comme la conscience, je peux l'étudier par le biais de l'observation scientifique, de la méthode expérimentale, du principe de non-contradiction, etc. Mais c'est indistinctement, oui, je ne peux pas le dire autrement, une fabrique à fiction. La conscience est ce qui fabrique des récits. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. La conscience et la fiction. Bon, je voulais vous faire un parallèle assez parlant, à mon avis, entre Marc, dans les moments où il doute, et un autre grand personnage de douteur dans la philosophie, mais aussi dans la littérature indistinctement, qui est le « je » de Descartes. Donc, c'est pas Descartes, c'est le personnage qui dit « je » dans les textes de Descartes, textes de philosophie. Revenons page 403, la citation dont on est parti au tout début de mon exposé, à propos du cerveau, là, de la chambre aux échos. La phrase principale, « pas de sensation directe, mais seulement des rumeurs aux échos incertains. Nous n'habitions pas à l'intérieur de nos muscles, de nos articulations, de nos tendons. Nous habitions dans l'idée que nous en faisions, dans l'image et le souvenir que nous en gardions. » Voilà ce qu'écrit Descartes dans la première méditation. « Je supposerais donc qu'il y a non pas un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. » On dirait que c'est Marc qui parle. « Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée, et si par ce moyen il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins, il est en ma puissance de suspendre mon jugement. » On dirait que Powers est allé puiser dans les méditations métaphysiques. C'est-à-dire un personnage qui suspend toute croyance. Pas seulement en Dieu, mais mes sens, mes perceptions, mes émotions, mon sang, ma chair. Ce que Powers, là, pour moi, retient de Descartes, c'est la capacité à douter. C'est faire un personnage du doute qu'on dit métaphysique, méthodique, dans le travail de Descartes. Comment est-ce que Descartes récupère ça? Pas du tout de la même façon que Powers. C'est là que la différence se fait. Descartes finit par dire « D'accord, je pense que je ne sais rien. Mais je pense. Et c'est ça ma base ferme. Même si je doute de tout, il faut bien qu'il y ait quelque chose en moi qui doute, donc de la pensée. C'est là-dessus que je m'appuie. Donc c'est pour ça qu'il dit « je pense, donc ça veut dire que je suis ». La seule chose qui m'assure de mon existence, c'est que je pense. Marc doute qu'il pense. Il pousse le bouchon. Et s'il n'y a pas un genre de drogue ou de robot dans sa tête qui ferait une illusion de pensée, il va beaucoup plus loin dans le doute radical que Descartes encore. Et pourquoi? Parce que, en effet, Descartes reste un dualiste qui dit « la pensée, ça c'est du sûr ». Voilà, ça c'est la base ferme. alors qu'on peut douter de toute matière. Mais dans la perspective de Weber, la perspective neurologique, comme tout est matière, même la pensée qui est une matière peut douter d'elle-même. Moi, là où je voulais en venir pour l'instant, c'est que Descartes est un philosophe qui produit une fiction, enfin, qui nous montre un personnage qui fictionnalise, qui dit « et si tout ça était faux ?» Le jeu de Descartes, à ce moment-là, au moment du doute méthodique, c'est ça. Sa pensée produit des fictions. Le travail de Powers, c'est de reprendre le personnage du doute là où Descartes l'avait laissé et d'aller plus loin parce que on ne peut pas séparer la pensée et la chair. Et que arriver à l'idée que je pense, c'est plus satisfaisant, en fait, comme base ferme. Mais là où ça m'intéresse, c'est que, où ça m'intéresse encore davantage que ce débat sur matérialisme et idéalisme qui est très complexe, c'est que ce travail sur la conscience telle qu'elle est perçue par les neurologues est une manière de nous montrer que nous vivons tous dans des mondes de fiction. Que la conscience est une fabrique de fiction. Et le cerveau aussi. Là, pour le coup, Weber distingue les deux, non pas comme s'il y avait la matière et l'esprit, mais la conscience, c'est une des fonctions du cerveau, disons. Et il y a des tensions à l'intérieur de ces fonctions du cerveau. Il y a des tensions. Et ces tensions, c'est des tensions entre deux fictions, deux types de fictions différents. Il y a une très très belle citation sur le fonctionnement du cerveau en général, page 269. C'est une description pratiquement politique du cerveau. C'est au milieu du premier paragraphe de la page 269. Nous n'étions pas faits d'un bloc continu et indivisible, mais de centaines de sous-systèmes indépendants dont la moindre altération suffisait à disperser cette confédération provisoire. Pour un Américain, mesurer ce que c'est que d'écrire un truc pareil. Mon pays fonctionne comme le cerveau. Y substituant de nouvelles contrées méconnaissables, qui pourrait ne pas tomber d'accord sur ce point? Et, jolie phrase juste après, à l'écoute du compte-rendu, Weber était tout archipel. En anglais, c'est All Islands. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau est un truc multiple, avec plein de couches, plein d'éléments qui ont eu mal à être ensemble. Le cerveau va dans le sens du multiple, par son fonctionnement, par le fonctionnement de ses parties. Et que fait la conscience là-dessus? Elle produit une fiction contraire. La conscience consiste à dire en permanence au cerveau que tout va bien, que l'individu est quelque chose, est une boule unique, continue. Je ne peux pas vous dire ça autrement, il y a une unicité du moi. Il y a un moi. Voilà, le cerveau part en archipel, la conscience est une fabrique du continu. Elle ne dit même pas que je rassemble, elle dit je suis une. Il n'y a pas d'élément à rassembler, il y a un gros élément, c'est moi, la conscience. Et là où ça m'intéresse, c'est qu'un certain Jean-Paul Gou, qui est un des critiques à la fois les plus discrets et les plus intéressants de la littérature aujourd'hui, nous dit que le roman, c'est la fabrique du continu. C'est un très très beau titre. D'un de ses ouvrages critiques les plus intéressants, La fabrique du continu, qui décrit la grande caractéristique du roman, aujourd'hui, par rapport à la poésie, par rapport au cinéma, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à toute forme de récit, le roman produit du continu. Donc je vous ai dit, pour commencer, La chambre aux échos, c'est un roman dont le héros est le cerveau, mais il faut aller plus loin en disant que tout roman fonctionne comme la conscience. Tout roman produit du continu. Il y a des péripéties, il y a des blancs, il y a des trous. On peut procéder par tâche, on peut procéder par glissement. Pourtant, il y a toujours l'intrigue. L'intrigue. La conscience, c'est quelque chose qui produit une intrigue du moi. Un truc continu. Je suis moi, je deviens moi, je suis toujours moi. Un récit. Jean-Paul Gou, c'est G-O-U-X. C'est un type qui vit à Besançon, qui est quelqu'un de très bien. Weber. Bon, on a compris comment il avait choisi le prénom, Gérald, ça vient de son Edelman, qu'il a beaucoup lu, tout ça. Weber, pourquoi il l'appelle Weber? Il y a un sociologue qui s'appelle Weber, bon, qui est très connu, tout ça. Je réfléchissais à ça, et il y a une chanson, un poème de Goethe qui m'est revenu. Alors, je sais pas d'où, parce que j'ai fait de l'allemand très longtemps, mais très mal, j'ai rien retenu de l'allemand, mais il y a un poème de Goethe qui dit « wir weben ». Et ça veut dire « nous tissons ».« Weben », c'est « tisser ». Weber, c'est le tisserand. C'est comme s'il s'appelait Gérald Tisserand. Et c'est pas rien d'avoir appelé son bonhomme Tisserand quand c'est un neurologue. C'est-à-dire, Quelqu'un qui étudie la conscience comme un machin qui tisse, un logos. Le logos en grec, c'est ce qui désigne le discours. Le discours, la parole, la science. Logos, ça vient de legein. Et legein, ça veut dire lier. C'est du matériel de couture, le logos. Le logos, c'est ce qui relie. Et son bonhomme Weber, il l'appelle, je pense, Weber, parce que c'est celui qui étudie comment la conscience tisse entre des choses multiples.